Alors, on va s'arrêter sur trois choses ici. D'abord, très rapidement, sur Capharnaüm, puisque on va regarder sur la carte où se déroule l'action. Donc, c'est histoire de situer qu'il va y avoir un petit peu des voyages entre les chapitres 7 et 8. Pour l'instant, Capharnaüm, si vous voyez la mer de Galilée, donc c'est vraiment au nord. Alors, je suis désolé, c'est un peu flou, ma carte, elle n'est pas terrible, il faudrait que je vous en trouve une autre, mais en fait, ce que j'aime bien sur cette carte, c'est qu'il y a des villes qu'on ne met pas d'habitude sur les autres cartes, mais dont on va avoir besoin. Gadara ou Gerasa, c'est des villes dont on parle quasiment pas, mais nous, on va en parler. Et donc, elles ne sont pas sur les cartes, mais celles-là, elles y sont. Donc, Capharnaüm, vous avez repéré? Ok, voilà, c'est tout. Donc, c'est histoire de voir où il est, Jésus. Et puis, on reprendra après quand il changera de ville. Maintenant, le deuxième terme sur lequel je voudrais revenir avec vous pour essayer d'en dégager la réalité, parce que ça peut nous sembler tout à fait abstrait, c'est le mot centurion au verset 2. Centurion, j'imagine que comme moi, vous avez lu les Astérix. Et donc, vous vous souvenez de cette parole d'Obélix qui dit: Si un décurion, c'est 10 hommes, un centurion, 100 hommes, est-ce que 1 000 hommes, c'est 1 000 000 hurions? Et c'est à peu près juste, hein. En tout cas pour le centurion. Un centurion dans l'armée romaine commande un groupe de personnes qui est d'à peu près 100, c'est-à-dire entre 80 et 160. Ça dépend de la mission. Alors là, je parle du centurion au temps de Jésus. On pourrait faire l'évolution du rôle de centurion dans l'Empire romain, mais en l'occurrence, j'ai été chercher entre l'an 0 et 50, en gros, après Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, il dirige entre 80 et 160 légionnaires. Et il a plutôt une bonne situation, parce qu'il va avoir pour salaire journalier 165 as par jour. Alors évidemment, ça ne nous parle pas beaucoup comme monnaie, mais on va comparer. Et si on regarde ce que gagne un simple légionnaire, c'est 10 as par jour. Donc 165 contre 10, on comprend vite que c'est quand même une bonne situation. Il n'est pas au top du top de la hiérarchie romaine, mais il gagne quand même assez bien sa vie. Et comme ici le centurion est un esclave, vous m'avez fait faire de drôles de recherches, j'ai été chercher combien pouvait coûter un esclave à ce temps-là. Et en fait, c'est assez complexe, hein, c'est un vrai marché. Donc ça dépend de l'âge, ça dépend de la fonction. Et j'ai relevé deux, trois petites choses. En gros, ça va de 800 as à 100 000 as, à peu près, un esclave. Mais si on veut un esclave musicien, il faut compter environ 16 000. Si on veut un couple, ce qui est très intéressant, parce que s'ils ont des enfants, les enfants nous appartiennent aussi, c'est à peu près 20 200. Et si on veut un cuisinier, c'est entre 24 et 28 000. Et si on veut une très belle esclave, c'est minimum 32 000 as. Voilà, ça donne un petit peu une idée, parce qu'on ne sait pas quel est le prix de son esclave à lui, mais le prix minimum, c'est 800 as. Et lui, il gagnait 165 par jour. Donc il pouvait avoir quelques esclaves. Maintenant, on va regarder un autre terme. C'est même presque une phrase. Au verset 5, il aime notre nation. Et ça, ce n'est pas du tout anodin. Parce que ça veut dire que le centurion romain fait probablement partie d'une catégorie de personnes que l'on appelle les craignants Dieu. Donc on sait que la crainte de Dieu, c'est une vertu. Et donc lui, c'est un craignant Dieu. C'est une catégorie de personnes qui est attirée par la foi juive, qui est aussi attirée par son éthique, par ses traditions. Et ce sont des personnes qui vont connaître, au maximum en tout cas, la loi, qui vont en respecter les préceptes. Donc ils ne sont pas juifs, ils ne font pas non plus la démarche, par exemple, de se circoncire, parce qu'ils ne veulent pas renier leur patrie. Ils ne veulent pas renier leurs origines, la foi de leur père, mais vivant en Israël, font tout comme les Israélites. Et le centurion romain fait très probablement partie de cela. Et on voit qu'il respecte les usages. Il n'est pas venu parler directement à Jésus parce qu'il est lui-même un païen. Et Jésus, c'est un rabbi. Donc, il va mettre une distance. Et on voit bien ce que disent les notables juifs. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Donc il est quand même en bon terme avec eux pour pouvoir leur demander d'aller parler en son nom à Jésus. Donc la proposition de lecture elle tourne évidemment autour de la foi de ce centurion. Donc on a dit que ce centurion romain, c'est un païen. Alors comment est-ce que Jésus peut déclarer avoir trouvé une foi pareille, ne pas avoir, pardon, trouvé une foi pareille à la sienne parmi tous les Israélites? Alors même que, effectivement, même si c'est un craignant Dieu, ce n'est pas un Israélite. Il n'est pas rentré dans l'Alliance. Eh bien, l'idée, c'est que non seulement le centurion aime Israël, non seulement il aime le Dieu unique, mais plus encore, en fait, il aime son prochain, son esclave. Donc un inférieur, même pas son prochain, l'autre centurion de la Légion. Non, non, il aime son esclave. Et donc là où, on verra hein, plus tard au chapitre 10, il y a un docteur de la loi qui va demander à Jésus ce qu'il convient de faire pour avoir part à la vie éternelle, mais vous connaissez par cœur ce passage. Eh bien en fait, lui, le centurion, il répond déjà. Il nous prépare à ça. Il est en train déjà de dire que par l'exemple de sa vie, l'idée c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Il a déjà tout. Il aime Dieu, c'est un craignant Dieu. Et en plus, il aime son prochain. Et le docteur de la loi, on le sait, il va demander à Jésus « Qui est mon prochain ?» Donc ce qui est super parce que ça va nous ouvrir à la parabole du bon samaritain. Mais en fait, le centurion, il a déjà répondu à la question. C'est son esclave. Il a souci de son esclave. Cette parole est tellement importante qu'aujourd'hui encore, ben en fait, on l'a fait nôtre pendant l'Eucharistie. Alors, elle a été un peu modifiée, on est d'accord. Hein, on ne parle pas de recevoir sous son toit. Et voilà. Mais Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est le centurion romain. Il dit seulement une parole et je serai guéri. Donc, on se fait l'esclave du Seigneur, en fait. Bon, ça va, on sait que c'est plutôt un bon maître. Donc ça va.